CFM, en Tarn-et-Garonne, le MAG.
On est jeudi, le MAG est politique avec Kader Youb. Bonjour Kader.
Bonjour Rémi, bonjour à tous.
Ton invité aujourd'hui ?
Notre invité, c'est Anaïs Loumi, du collectif des jeunes pour le climat du Tarn-et-Garonne, une association tarn-et-garonnaise qui a pour principal objectif de créer un espace d'échange, et c'est ce que je lis sur votre document, pour les jeunes autour du climat, composé de jeunes tarn-et-garonnais, élèves, étudiants, jeunes salariés, militants associatifs ou politiques de 12 à 30 ans. Nous nous sommes réunis, dit ce document, au sein de ce collectif pour agir pour notre planète. Bonjour Anaïs Loumi.
Bonjour.
Bienvenue à vous sur CFM Radio. Nous sommes heureux de vous avoir ici dans nos studios puisque vous allez débuter une série d'émissions consacrées à la jeunesse qui s'investit et qui s'engage en politique et dans le monde syndical. Un mot sur votre collectif. Est-ce que vous pourriez nous le présenter? J'en ai dit quelques lignes, mais plus détaillé.
Alors, on est un jeune collectif de jeunes, puisqu'on a été créé en 2021. On est organisé autour d'une vingtaine de jeunes, avec d'une part un pôle, on va dire, action. Là, par exemple, ce week-end, en partenariat avec d'autres associations, on organise un ramassage des déchets à Montauban sur le site de Sapiac. On organise aussi d'autres événements, on va dire, rattachés à ce qu'on pourrait appeler l'éducation populaire, avec des DIY, donc des ateliers do it yourself pour apprendre à faire soi-même ses cosmétiques. D'autres actions aussi, je pense à celles qu'on a réalisées à la fin du mois de novembre en réaction à la synthèse de la COP26, donc sur le pont de l'avenir.
On va y revenir sur la COP26.
Et puis donc un deuxième pôle sensibilisation, donc là où notre objectif c'est d'intervenir par exemple dans des classes sur le plan scolaire. On anime aussi des ciné-débats et puis bien sûr, toute notre volonté menée sur l'aspect vulgarisation, on va dire, des expertises scientifiques sur le climat à travers nos réseaux sociaux. Et puis enfin, le dernier pôle, donc pôle plaidoyer, donc où là, on essaye d'échanger, d'intervenir et de rencontrer les élus. Donc les élus locaux, puisque nous, notre échelle d'action, c'est le Tarn-et-Garonne. Et donc voilà, d'écrire des articles.
Justement, Anaïs Loumi, vous parlez des décideurs locaux et des responsables politiques. Vous avez, il y a quelques jours, été reçue par Marie-Claude Berly, la première adjointe à la mairie de Montauban, mais qui est aussi vice-présidente du CIRTOMAD du Grand Montauban. L'idée, c'était quoi? C'était de vous rendre compte des avancées, notamment du plan climat qui est mis en place au Grand Montauban, et d'après ce que j'ai pu lire, le compte n'y est pas, c'est ça?
Alors le cœur des échanges, donc oui, effectivement, c'était autour du plan climat air énergie territorial, donc qui est un document de planification et d'action.
Rappelons que c'est une obligation.
C'est obligatoire, ouais. Voilà, ouais. C'est exactement où j'allais en venir pour toutes les intercommunalités de plus de 20 000 habitants. Et donc on a pu échanger autour des bilans, puisque la démarche de l'agglo de Montauban avait été volontaire les années passées, avec une initiative d'un plan climat territorial volontaire, et là désormais il est devenu obligatoire. Donc sur l'ancien plan, il n'y avait pas eu d'évaluation. Pour ce plan-là, l'évaluation est obligatoire et doit être rendue en juillet de cette année. Donc on attend avec impatience de voir l'évaluation réglementaire, puisqu'on a pu voir nos voisins à Toulouse, où là, l'évaluation a été rendue au mois de janvier 2022. Et nos copains, si on peut dire ça comme ça, d'Action non violente à Toulouse, ont réalisé une fausse campagne publicitaire mentionnant Toulouse Métropole sur justement les effets du PCAET qui ne sont pas encore assez
suffisants. Qui n'atteignent pas en tout cas leur objectif. Est-ce que vous n'écartez pas l'idée aussi d'avoir, peut-être pas dans ces proportions, mais l'évaluation finalement ne reflétait pas des efforts assez importants, est-ce que vous envisagez aussi des actions symboliques, mais aussi coup de poing?
Oui, sur ce type d'action-là, notre collectif est assez volontaire, hein, comme on a pu le faire au Pont de l'Avenir. Mais on a aussi une volonté de dialogue. Et si je reviens sur notre rencontre avec Marie-Claude Berly, qui nous a fait la proposition de faire partie d'un comité de suivi. Donc c'est vrai qu'on y a répondu favorablement, mais on a aussi évoqué le fait que sur l'agglo de Montauban, il n'y a pas d'instance participative obligatoire. Là aussi, pour le coup, qui est le conseil de développement, qui est assez actif sur l'agglo de Toulouse. Vous me permettrez de faire le parallèle une deuxième fois avec l'agglo toulousaine, mais le CODEV est une instance qui permet à la société civile...
Elle vous a répondu quoi, Marie-Claude Berly, sur la mise en place du CODEV ?
Du CODEV, elle l'a noté sur son cahier, donc peut-être on espère avoir des retours sur ce type d'instances participatives, parce qu'aujourd'hui c'est un petit peu ça l'enjeu aussi, c'est de faire participer non pas que les jeunes, parce que là aussi on a eu ce débat-là, et nous, notre asso, elle n'a pas cette volonté-là d'instaurer un conflit intergénérationnel.
Mais justement, j'ai lu sur le document officiel de votre collectif que c'était de 15 à 30 ans. Est-ce que, quelque part, c'est pas discriminatoire, puisque une personne qui aurait 35 ou 40 ans ne pourrait pas intégrer ce collectif, c'est ça ?
Alors, c'est pas discriminatoire, hein, bien sûr. Mais,
non, mais j'utilise une formule un petit peu forte, mais vous m'avez compris. Est-ce qu'une personne qui a plus de 30 ans peut intégrer ce collectif ?
Alors, il y a d'autres assos qui existent en Tarn-et-Garonne autour du climat qu'on rencontre également. C'est vrai que nous, notre volonté, c'est de fédérer autour de la jeunesse, parce qu'on voit qu'aujourd'hui, il y a un engouement autour de ces questions-là qui vient de la jeunesse, avec des assos qui se structurent un peu partout en France. Et faut pas oublier non plus que nous, le collectif, on est une jeunesse. Hein. Il y en a des milliers des jeunesses, et tous les jeunes aujourd'hui n'ont pas la possibilité de s'intéresser aux notions pour le climat. Enfin, il y a des jeunes qui sont dans des situations très précaires aujourd'hui, et ça non plus, c'est quelque chose qu'on veut pas oublier. On veut pas opposer justice sociale et justice climatique. Et
ça. Elles vont de pair, selon vous.
Exactement.
Bon, Anaïs Lomi, est-ce qu'il existe, vous avez rencontré Marie-Claude Berly, est-ce qu'il existe selon vous des décideurs qui prennent la situation climatique au sérieux et qui concrètement mettent en place des actions en accord avec leurs paroles, leurs principes ? Est-ce qu'il en existe des décideurs ?
Alors par exemple, et on l'a mentionné à Marie-Claude Berly pour lui donner justement des exemples d'autres territoires qui ont mené des actions qu'on pourrait qualifier d'exemplaires, avec, je pense à l'agglo de Lille, par exemple, qui a mis en place un budget climatique. Donc, c'est-à-dire que tout ce qui passe au budget est analysé à travers le prisme de ce plan climat.
C'est-à-dire
justement.
Que c'est le climat qui est l'épine dorsale, l'idée transversale de tout ce qui concourt à la vie de la collectivité, c'est ça ?
Voilà, tout à fait. Après, il y a aussi eu d'autres agglos, je pense à Clermont, à Grenoble, qui ont mis en place des conventions citoyennes pour le climat à l'échelle locale, puisque celle au niveau national n'a pas forcément abouti dans le bon sens, si on peut dire ça comme ça. Donc voilà, au niveau local aussi, il y a des actions qui sont percutantes. À Angers aussi, les assises locales de la transition écologique. Donc c'est vraiment remettre à portée de tous ces questions-là, de pouvoir échanger et de le faire rentrer dans le dialogue commun, parce que les questions autour du climat, c'est quand même très complexe. Donc,
au-delà du climat, parce que votre action ne se résume pas forcément et uniquement sur le champ du climat, parce que j'imagine qu'il y a aussi une philosophie de vie qui irrigue votre collectif. C'est quoi ? C'est l'idée, c'est des circuits courts, c'est penser autrement, vivre autrement, c'est ça ?
Oui, c'est tout à fait ça. C'est une autre philosophie. Enfin, vous parlez de circuits courts, mais on peut parler aussi de l'aspect de la mobilité.
De la mobilité, bien sûr.
Voilà, de favoriser l'utilisation du vélo, des transports en commun, sur les TER, les transports régionaux, d'encourager tous ces aspects-là.
Est-ce que, j'imagine que la mobilité, ça a été un sujet que vous avez abordé avec Marie-Claude Berly, est-ce que le Grand Montauban en fait assez pour le vélo ? Est-ce que mais pas que, j'allais dire. Ça peut être aussi le transport d'autocars propres. Est-ce que vous lui avez donné des idées, des choses à mettre en place pour le Grand Montauban, et est-ce qu'elle vous a écouté, finalement ?
Alors, c'est vrai que sur le champ du vélo, il y a une association au niveau local, Montavélo. Si je ne dis pas de bêtises sur le nom, mais qui participe, pour le coup, est en lien, est en dialogue avec l'agglo de Montauban, et a fait remonter, effectivement, tous les besoins liés à cette mobilité-là. Mais après, c'est vrai qu'on a évoqué cette question-là, mais peut-être pas de manière poussée, on va dire.
On va s'éloigner du Grand Montauban. Au niveau de la planète, est-ce qu'il y a, selon vous, une différence entre l'effort des principaux pays du monde à traiter la crise sanitaire par rapport à la prise en compte effective de ce que vous nommez l'urgence climatique ? Est-ce qu'il y a une différence entre comment les pays, finalement, ont fait face à la situation sanitaire liée à la crise du Covid, et par rapport à la crise climatique, qu'est-ce que vous en avez à en dire sur ce point ?
J'ai pas très bien compris la question, mais vous voulez dire par rapport aux pays développés
Tous les pays développés ont pris la question de la crise sanitaire, ont mis des moyens colossaux pour acheter des vaccins, pour protéger leur population, et à juste titre. Est-ce que ces efforts-là, comparés à la prise en compte de la crise sanitaire, ils sont différents ?
Ils sont pris différents parce que la crise sanitaire, elle a mis la notion d'urgence dans la réalité, alors que sur le plan climatique, la notion d'urgence, elle a du mal à se percevoir, alors que pour ça, c'est là, c'est aujourd'hui qu'on ressent déjà les effets du réchauffement climatique.
Est-ce que ça vous fait hurler, ça vous fait râler, finalement, qu'il y ait autant d'argent pour autant d'énergie qui soit déployée pour lutter contre la crise sanitaire et pas, finalement, pour lutter contre l'urgence climatique?
C'est difficile de faire le parallèle entre les deux parce que c'est aussi important de mettre des moyens face à la crise sanitaire. Mais ce qu'on peut dire, c'est que pour le climat, il y a eu beaucoup de promesses qui ont été faites. Si je repense par exemple aux accords de Copenhague en 2009 avec les pays les plus développés qui s'étaient engagés à donner 100 milliards de dollars par an aux pays les plus vulnérables, donc les pays qui subissent finalement les effets de ce réchauffement climatique. Et voilà, c'était en 2009 et aujourd'hui, ça n'a pas été fait. Donc le climat, il n'a que faire de ses promesses et c'est les actions maintenant qu'il faut voir.
Je vous propose de marquer une courte page de publicité et on se retrouve tout de suite après.
Parfait.
À Moissac, Castelsarrasin et Saint-Nicolas-de-la-Grave, vous écoutez CFM Montauban.
Moi, malgré un budget serré, j'ai la solution pour varier mes plaisirs. Le guide Pastime. Exceptionnel dans le département, le guide Pastime dépasse tout ce que j'ai imaginé. Je sors plus, je dépense moins. Je profite de réductions jusqu'à moins 50% dans une large sélection de restaurants, de loisirs et de commerces. Avec le guide Pastime, je redécouvre le plaisir de sortir.
Avec Pastime, sortez plus, dépensez moins.
Voir conditions sur www.pastime.eu. Avec le guide Pastime, sortez plus, moins cher.
Provence Rugby vient défier Sapiac le vendredi 11 février à 19h30 à Montauban. Venez nombreux donner de la voix et faire trembler les tribunes du stade. Animation spéciale USA pour petits et grands dans tout le stade avec de nombreuses surprises. Infos et réservations sur www.usmsapiac.fr.
CFM, CFM Radio, votre radio en Tarn-et-Garonne.
Suite de votre rendez-vous politique avec Kader Youb, il reçoit aujourd'hui Anaïs Lomi, collectif des jeunes pour le climat en Tarn-et-Garonne.
Oui, avec Anaïs Lomi. Donc, pour certains scientifiques, Anaïs Lomi, l'épidémie du Covid-19 est liée à un non-respect de la nature et notamment à la déforestation. Est-ce que vous êtes aussi de cet avis ? Est-ce que vous avez pu creuser cette question ?
Alors, plus la creuser, c'est comme je le disais tout à l'heure, c'est des questions complexes. Donc, nous, au sein du collectif, on n'a pas la prétention de produire des rapports scientifiques comme peuvent le faire le GIEC, par exemple. Mais oui, ça a été démontré, notamment par des scientifiques du GIEC, que l'augmentation des pandémies peut être la conséquence, on va dire, de tout ce qui est fait en lien avec le réchauffement climatique.
Alors, vous avez, notamment par rapport à la Convention citoyenne, esquissé un petit peu ce qui a été fait durant le quinquennat d'Emmanuel Macron en matière d'urgence climatique, en termes de lutte contre le réchauffement climatique. Quel bilan tirez-vous au terme de ce mandat qui s'achève dans quelques mois ? Quel bilan faites-vous de l'action d'Emmanuel Macron à la présidence ?
Mais je pense qu'au sein du collectif, on est assez unanime pour dire que le bilan, il est encore très, très insuffisant. Si je pense à l'affaire du siècle, donc l'État, finalement, il a été condamné pour cette inaction politique par... D'une part par le Conseil d'État et d'autre part par le tribunal administratif. Et donc, finalement, il a jusqu'au 31 décembre 2022 pour rattraper son inaction climatique entre 2015 et 2018. Ce qui paraît assez compliqué.
C'est improbable.
Mais voilà, c'est quand même des affaires qui ont été mises devant la justice. Donc, ça prouve bien qu'il y a un manque, qu'il faut arrêter, comme je le disais précédemment, les promesses et passer à l'action.
Et pourtant c'était une de ces promesses à Emmanuel Macron, hein, de mettre l'écologie et la question de l'urgence climatique au centre et poser les problèmes sur la table. Alors, il avait nommé, on s'en souvient, Nicolas Hulot, qui devait avoir une vision transversale sur tous les ministères. Est-ce que vous retenez quelque chose de ce mandat? Est-ce qu'il y a quelque chose, quelques avancées susceptibles d'être portées à son crédit?
C'est assez difficile de répondre sur ça, puisqu'on sait que vous citiez Nicolas Hulot, il a rapidement abandonné aussi. Donc je pense que ça en dit long sur les blocages qui peut y avoir au niveau national pour mener ces politiques-là. Et finalement, aujourd'hui, c'est toutes les politiques qui devraient être passées au crible, au prisme de l'écologie et du climat. Donc c'est pas encore suffisant, et avec je reviens sur la convention citoyenne, mais si vraiment il avait tenu ses promesses, parce qu'on parlait de promesses encore une fois, il avait dit qu'il entendrait, qu'il retiendrait ces propositions-là, et c'est vraiment un travail incroyable qui a été mené au sein de la convention citoyenne. C'est des bénévoles à la base qui ont été tirés au sort et qui ont mené un travail de fond sur le plan législatif, notamment.
Avec un certain nombre de propositions.
Des propositions qui étaient vraiment calées et concrètes, voilà. Et tout ça, finalement, ça a été quand même relativement balayé.
Il faut dire aussi, à sa décharge, qu'il y a eu cette crise, quelque part, qui est venue un peu bousculer les agendas. Pensez-vous, Anaïs Omi, que les citoyens sont en avance sur leurs dirigeants, qu'ils sentent que quelque chose de grave est en train de se passer et qu'il faut agir? Est-ce que les citoyens, au sens large, sont en avance sur leurs dirigeants?
Alors, en avance, je ne sais pas. Je pense qu'on a longtemps parlé de qu'il fallait éveiller les consciences, etc. Je pense qu'aujourd'hui, elles sont relativement bien éveillées. Donc maintenant, il faut passer à l'action, même s'il y a encore beaucoup de sensibilisation, je le disais tout à l'heure, à faire, de vulgarisation aussi, parce que ce n'est pas un sujet facile à prendre en main. Mais pour ça, il faut l'accompagner et il faut mettre les moyens derrière de tout ça, de l'accompagner.
Alors, on sait que les actes sont difficiles à mettre en œuvre lorsqu'on est au pouvoir, mais Anaïs Lomi, les Françaises et les Français vous ont élu présidente de la République. Quelle première mesure vous prenez ?
C'est difficile de dire une mesure comme ça, surtout qu'en étant un collectif, on n'a pas vocation à créer un programme. On laisse les politiques faire ça.
Symboliquement, mais quelle mesure vous prendriez, celle qui est finalement...
Symboliquement, je dirais de mettre ces questions climatiques, de les inscrire dans la Constitution pour que finalement plus aucune loi ne passe sans analyser ses effets. Et si on voit que les effets ne sont pas en concordance avec les attendus, ne pas passer ces lois-là. Donc inscrire sur la Constitution, sur le papier, vraiment ces questions-là au cœur.
Cette question-là a été posée à Yannick Jadot, le chef de file d'Europe Écologie Les Verts, pardon, pour la présidentielle. Lui, il a répondu, ma première mesure, si je suis élu président de la République, ce sera de supprimer, d'interdire l'élevage industriel. Est-ce que ça vous semble curieux qu'il ait répondu du tac au tac cette première mesure ? Ou ça vous semble...
Me semble pas forcément curieux, parce que il en a plusieurs des mesures dans son programme, donc il a dû en cibler une.
La première mesure, c'est supprimer. Bon, j'entends bien que interdire l'élevage industriel, ça peut être une mesure à prendre, mais de la citer en premier, est-ce que ça vous semble... étonnant.
étonnant, je sais pas, je mettrai pas forcément de jugement. D'accord. Sur le fait qu'il ait cité ça en premier.
Est-ce que vous pensez, Anaïs Omi, que les jeunes, les actions que vous menez ont un véritable impact sur les politiques mises en œuvre?
On l'espère et on fait tout pour. Enfin, on l'a bien senti. Bon, nous, c'est vrai qu'on agit au niveau local. Donc on peut pas, enfin c'est compliqué de toucher plus large, mais...
Et justement, à ceux qui disent que la tâche est gigantesque, que l'action qu'on peut mettre en œuvre tous les jours, elle est infinitésimale et qu'elle ne servira à rien, est-ce vous répondez à ça? C'était un discours que vous entendez tous les jours,
oui,
je suppose.
On l'a entendu encore voilà. Récemment, donc on n'est pas surpris de l'entendre. Mais ça serait dommage, en ayant la vingtaine, de partir déjà résigné. Donc nous, on est toujours dans cette volonté-là d'agir. Et ça me paraît plus qu'important de ne pas se décourager, même si on sait très bien, hein, les rapports le montrent. Par exemple, en 2019, ce sont les 10% les plus riches qui ont émis la moitié des émissions de GES, des émissions de gaz à effet de serre au niveau planétaire. Donc c'est sûr que nous, à notre petite échelle, avec notre vingtaine de jeunes dans le Tarn-et-Garonne, on ne va pas faire changer tout. On le sait, on en est conscient, mais on est là aussi pour s'organiser localement, et c'est en mutualisant toutes ces forces locales qu'on peut arriver à faire basculer des décisions.
Alors justement, sur des décisions, et vous connaissez François Gervais, un physicien qui quelque part, un physicien assez reconnu, qui écrit dans des revues scientifiques importantes. Lui, il dit... pour quelque part contrer vos arguments, il dit, prenons par exemple les éoliennes et les panneaux photovoltaïques, il dit, cela ne sert strictement à rien, puisque dans le même temps, l'Inde et la Chine, qui ont besoin de ressources fossiles, construisent pratiquement une centrale à charbon chaque semaine. De toute façon, toutes les réductions que l'on peut imaginer en France, non seulement ne changeront pas la température de la planète, de plus de l'ordre d'un millième de degré. Ça, c'est une indication, c'est un constat implacable d'un physicien. Je ne dis pas que ce qu'il dit est la réalité, mais c'est un discours qui est quand même prégnant chez certains.
En tout cas, on voit aujourd'hui que le discours, il met surtout à l'ordre du jour l'opposition entre énergie fossile et énergie renouvelable, et que finalement, je pense au nom du collectif, on ne se pose pas assez la question de savoir pourquoi on produit cette énergie et a-t-on besoin de produire autant d'énergie. Je pense par exemple, là, pour être dans l'actualité, mais les pistes de ski à Pékin pour les JO, je pense à la future Coupe du Monde au Qatar. Est-ce que c'est de l'énergie qui est bien dépensée?
Comment on lutte pour ça, Anaïs Omi? On ne peut pas. Comment voulez-vous lutter contre les mastodontes tels que la Chine ou que l'Inde? Propre échelle. Alors que le climat, il se juge au niveau de la planète.
Oui, tout à fait. C'est sûr qu'à notre propre échelle, petite Tarn-et-Garonne, petite France, on pèse pas grand-chose face à tout ça. Mais c'est pour ça aussi qu'à la base, des grandes conférences sont organisées comme les COP.
Est-ce qu'elles ont un effet concret, justement, sur les politiques? Vous parlez de la COP. Greta Thunberg dit que de ces conférences, il n'en sort que du blabla.
Oui, tout à fait. On est d'accord avec elle.
Alors, vous, ça sert à quoi, ces conférences?
Elles servent quand même à mettre le climat dans le débat public, parce que on le voit aujourd'hui dans les médias, c'est pas forcément le sujet qui a tendance à ressortir. Là, les présidentielles approchent et on voit bien que c'est un sujet qui passe au 3e, 4e, 5e, 6e, 7e plan, et il faudrait déjà le remettre au cœur des débats, et puis agir. Oui, agir un peu à toutes les échelles et sur tous les acteurs, parce que finalement, c'est les associations, c'est les politiques, c'est les entreprises, c'est les citoyens, c'est tout le monde.
Est-ce que le collectif, l'équipe des jeunes pour le climat de Tarn-et-Garonne a vocation à mettre en œuvre des actions et à s'investir et s'impliquer dans la campagne à venir, la présidentielle, mais aussi les législatives? Est-ce que vous avez vocation à vous impliquer?
Alors non, nous, on est un collectif, donc avec plusieurs horizons politiques, on va dire, au sein de notre collectif, même si, bon, vous vous doutez bien qu'on est plutôt sur la gauche. Mais non, on n'a pas vocation à soutenir un candidat ou un programme en particulier. Nous, ce qu'on souhaite, c'est déjà au niveau local de pouvoir s'investir dans des instances participatives aux côtés des élus et de faire valoir les besoins au niveau des territoires actuellement sur cette question-là.
Est-ce que vous envisagez d'autres modes d'action pour vous faire entendre ?
Mais pour l'instant, on est organisé comme ça en trois pôles. Tout à l'heure, on parlait des actions d'action non violente Toulouse sur la réaction de l'évaluation du PCAET. Donc, c'est ce type d'action-là qu'on peut aller. Et après, on peut réfléchir à d'autres actions. Pour l'instant, j'en ai pas à vous citer, mais en tout cas, nos cerveaux bouillonnent face à cette inaction.
On voit quand même quelques actions être mises en place. Vous avez cité plusieurs exemples, notamment à Grenoble, à Clermont-Ferrand et dans d'autres collectivités. Est-ce que vous êtes optimiste ? Est-ce qu'il y a certains signes qui vous semblent malgré tout positifs ?
Oui, tout à fait. Il faut rester optimiste parce que sinon, enfin, quand on voit là, je ne sais plus le pourcentage de jeunes qui se déclarent éco-anxieux. Ça peut faire peur. Enfin, ça nous fait peur. On n'a pas
éco-anxieux, c'est-à-dire c'est par rapport à la perspective qu'ils voient un monde.
Oui, à la perspective. Et encore, je reviens, c'est aujourd'hui. Enfin, les termes de perspective, de future génération, etc. Ça nous fait oublier l'urgence. Et donc c'est je le redis, mais c'est aujourd'hui quoi.
Vous êtes optimiste?
Je reste optimiste.
Vous restez optimiste pour l'avenir. Et à titre personnel, Anaïs Somi, est-ce que vous engagerez, à titre personnel, pas du collectif, est-ce que vous engagerez en politique plus tard ?
Alors, pourquoi pas, peut-être. À ce jour, je ne suis pas engagée, je ne suis pas encartée. Je fais partie d'un collectif tout récemment, donc voilà, j'étais étudiante.
Est-ce que c'est une idée qui vous trotte dans la tête ?
C'est peut-être une idée, oui. Après, à ce jour, je n'ai pas pris de décision. J'œuvre pour le collectif et pour l'instant, ce qu'on fait me paraît être de bonnes actions.
Ben, si je vous dis à titre personnel qui vous soutenez pour la campagne présidentielle, vous ne me le direz pas, c'est ça ?
À ce jour, non, je ne vous répondrai pas.
C'est parce que vous n'avez pas fait votre choix encore, peut-être ?
Pas tout à fait. Certainement, mais pour l'instant, je...
Il y a des candidats, en tout cas, qui n'auront pas votre suffrage.
En tout cas, je sais pour qui je ne voterai pas.
Voilà, c'est ça. Anaïs Somi, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de CFM Radio. On vous
merci
dit
à
bientôt. Ici, en studio, vous viendrez nous raconter, nous dire quelles sont vos actions et ce que vous avez pu mettre en œuvre. Merci à vous.
Merci à vous.
Merci Kader Youb, c'était Politiquement Votre avec Anaïs Lomi du collectif des Jeunes pour le Climat en Tarn-et-Garonne. La semaine prochaine ?
La semaine prochaine, ce sera certainement un jeune représentant de La République En Marche qui sera ici dans nos studios.
Merci Kader, cette émission a été réalisée en direct. Rediffusion aujourd'hui à 17h et à 21h. Et en podcast sur cfmradio.fr.